7-9.
Nous sommes le mercredi 2 mars. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. C'est une journée spéciale de solidarité avec le peuple ukrainien aujourd'hui sur notre antenne. Comment s'organise l'aide pour celles et ceux restés là-bas? Comment accueillir les réfugiés ici? Vous entendrez de nombreux témoignages d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens. Nous vous détaillerons également les informations pratiques si vous voulez aider avec les associations qui sont impliquées. Tout cela dans nos journaux et dans nos émissions tout au long de cette journée. Bonjour Anaïs Fega.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'Ukraine, justement au cœur du premier discours sur l'état de l'Union de Joe Biden, c'était cette nuit. Vladimir Poutine qualifié de dictateur et cette standing ovation du Congrès américain. Les autres titres, Anaïs.
100 milliards d'euros par an en France, c'est le coût inédit dévoilé ce matin sur France Inter des inégalités hommes-femmes. Et puis la Coupe de France de football s'est terminée pour les amateurs de Versailles face à Nice, battu hier 2-0, mais sans regret.
Et à l'occasion de cette journée spéciale de solidarité, les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Alexandra.
Ce sont deux députés très connectés, l'une au peuple ukrainien et l'autre au peuple russe. À l'Assemblée nationale, Valéria Formuntian préside le groupe d'amitié France-Ukraine, Caroline Janvier le groupe France-Russie. On va croiser leur grille de lecture.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le secrétaire général adjoint de l'OTAN, Camille Grand, et le spécialiste des questions de défense et de stratégie, Pierre Servent. J'attends vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Des drapeaux jaunes et bleus entre la Maison Blanche et le Capitole. Washington aux couleurs ukrainiennes pour le premier discours sur l'état de l'Union de Joe Biden depuis son élection. Mais cette fois, à côté des thèmes de politique intérieure, Covid, inflation, élection, le conflit a fait son entrée fracassante devant le Congrès au complet où l'on avait sorti tailleurs et cravates, rubans et écharpes jaunes et bleus, Sébastien Paour.
L'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis est dans l'hémicycle aux côtés de la Première Dame et Biden l'a fait applaudir dès le début de son discours pour montrer que les États-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien. Les démocraties sont au rendez-vous face à l'autocratie, dit Biden, face à Poutine, qu'il qualifie de dictateur, dont l'invasion a des conséquences et des coûts partout dans le monde, et qui est aujourd'hui plus isolé que jamais.
Putin est maintenant isolé du monde. More than he has ever been.
Le président américain annonce une nouvelle mesure, la fermeture de l'espace aérien des États-Unis aux vols russes,
tonight,
puis s'adresse aux oligarques.
I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders,
ce soir, je dis aux oligarques russes et aux dirigeants corrompus qui ont soutiré des milliards de dollars à ce régime violent,
no more.
C'est fini. Nous nous joignons à nos alliés européens pour trouver et saisir leurs yachts, leurs appartements de luxe, leurs jets privés. Nous venons pour vos gains mal acquis. Et il termine en prévenant le peuple ukrainien. Il se bat courageusement, dit Biden, mais les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois seront difficiles. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et sur le terrain, en effet, principale cible de l'armée russe ce matin, Kharkiv, proche de la frontière russe, des troupes aéroportées y ont débarqué dans la nuit. Des combats s'y déroulent, un hôpital attaqué. Des bombes aussi sur Kiev hier, avec à chaque fois d'importantes destructions, des morts aussi, des dizaines sans doute, dont certains tués dans leurs immeubles d'habitation. Alors les civils prennent les armes. Nos envoyés spéciaux à Kiev, Gilles Gallinaro et Omar Waman, ont rencontré un jeune habitant qui s'est spécialisé dans la fabrication des cocktails Molotov.
Là, vous venez acheter quoi ?
Je viens acheter de l'huile de pour moteur pour faire des cocktails de Molotov.
Chaque soir, Nicolas fait ses courses dans cette station-service près de chez lui, réservée habituellement à l'armée ukrainienne.
Et le magazine, on a donné gratuitement.
Donc là, la station-service vous en a offert un.
C'est OK. D'accord. Merci beaucoup. On veut combattre ? Et on veut démontrer aussi aux Russes que l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Notre liberté, ce n'est pas seulement les mots, c'est l'âme de la nation.
Cet artiste de 32 ans se prépare avec ses amis à défendre sa ville de Kiev avec cette arme incendiaire artisanale qu'il réserve aux forces russes. Combien de cocktails Molotov vous faites par jour ?
On peut faire centaines. Et les cocktails de Molotov, c'est très simple, mais très efficace. Oui.
Nicolas est un opposant de longue date à Vladimir Poutine, qu'il n'hésite pas à comparer au pire dictateur.
Il y a deux personnes qui ont bombardé Kyiv, c'est Hitler et Poutine. Et même Poutine et Hitler bombardé Kyiv à 4h du matin. L'histoire se répète, c'est quelque chose fou. Je vais résister contre les occupants.
Et une résistance à coups de cocktail Molotov, l'arme du pauvre, symbole de la lutte de tout un peuple. Kiev. Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Quant au convoi russe aux abords de Kiev, il semble à l'arrêt. Pause pour revoir la stratégie ou raison logistique. On en parle à 7h30. Et au-delà des centres urbains stratégiques, les forces russes cherchent également à progresser dans le sud pour établir une jonction entre la Crimée et la région séparatiste du Donetsk. C'est ainsi que dans le port de Mariupol, tous les quartiers sont bombardés, jetant sur les routes et dans les trains des centaines de milliers de déplacés, près de 700 000 selon les Nations Unies, principalement vers la Pologne ou la Roumanie. Deux défis pour ces pays frontaliers, accueillir des personnes démunies, parfois sans papier, et faire parvenir l'aide humanitaire jusqu'en Ukraine. Reportage à la frontière roumaine de notre envoyée spéciale Mathilde Hémy.
Les prêtres orthodoxes s'affairent entre les packs d'eau et les boîtes de conserve. L'aide est destinée aux réfugiés qui arrivent, transit de froid, au poste frontière de Siret. Mais très vite, la situation devient dramatique de l'autre côté de la frontière. Les prêtres chargent les tout premiers camions humanitaires et se présentent aux douaniers ukrainiens, raconte le père Yonel Constantin Maloche.
Samedi soir, nous avons réussi à passer avec 7 minibus chargés de nourriture, de couvertures, de quelques vêtements et de produits d'hygiène. Nous n'avons pas été en mesure de les emmener à leur destination finale, mais ils ont été chargés à la frontière dans d'autres voitures qui, nous l'espérons, les ont amenés là où on en a besoin.
Depuis, des négociations entre les autorités des deux pays ont permis de faire rentrer plus d'aide et pas seulement de la nourriture, dit le père Maloche.
On nous a dit que les stocks des hôpitaux de la ville frontalière la plus proche sont à sec, car ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient vers Kiev et les autres zones de conflit. Eux n'ont plus rien, alors il faut leur fournir des anticoagulants, des perfusions, des seringues, des pansements et des instruments médicaux pour soigner les malades.
Toutes les paroisses de Roumanie font remonter vers les frontières de l'aide pour les Ukrainiens, qui manquent aussi d'essence et d'électricité.
La solidarité s'organise aussi en France. Journée spéciale sur France Inter 13-14 depuis le local des scouts ukrainiens de Paris et des témoignages toutes les heures sur notre antenne.
L'onde de choc de l'invasion russe jusque dans le business.
Plusieurs géants américains se désengagent de Russie, de Disney qui reporte ses sorties en salle, à ExxonMobil qui délaisse un projet de champ pétrolier à plusieurs milliards de dollars. Plus d'iPhone, de Mac ou d'Apple Store non plus. Apple suspend toute la vente de ses produits et très concret aussi, Boeing arrête son soutien opérationnel aux compagnies russes comme la maintenance ou la fourniture de pièces détachées. Résultat, des difficultés croissantes pour voyager, d'autant que l'espace aérien se recroqueville pour les compagnies russes sans le survol de l'Europe, du Canada et des États-Unis. Anastasia, une étudiante moscovite qui donne des cours d'anglais pour se payer quelques voyages, regarde aujourd'hui son avenir de façon beaucoup plus sombre. Elle l'a dit à notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
Seulement 20% des Russes pouvaient se permettre de voyager. Et maintenant, plus personne. Je regarde les cours du dollar et de l'euro, j'aime beaucoup voyager. Et maintenant, nous constatons que nous allons devoir travailler deux fois plus dur pour pouvoir avoir l'argent, juste pour aller en Europe, par exemple. Mais je ne suis pas sûre qu'il sera possible de voyager en Europe dans un futur proche à cause de ces sanctions. Je voulais m'inscrire dans une université française cette année. Bon, je ne peux évidemment plus le faire maintenant. Il va falloir penser à survivre bientôt.
Les sanctions tous azimuts, y compris dans le monde de la culture. Le festival de Cannes n'accueillera pas de délégation officielle russe sur la croisette, ce qui ne veut pas dire qu'il met au banc les cinéastes, tient à préciser le président du festival, Thierry Frémaux.
Il ne s'agit pas du tout d'un boycott en général et de qui que ce soit. Il faut quand même savoir que les films russes montrés par le festival de Cannes, le film d'Alexis German Jr. par exemple, l'année dernière, qui évoquait un prof assigné à résidence, les films que nous montrons sont en général des films anti-Poutine. Le festival de Sundance vient de montrer un documentaire sur le dissident Navalny. J'ai également beaucoup bavardé avec des cinéastes ukrainiens, avec par exemple Sergueï Loznitsa, qui est déjà venu en compétition. Lui dit « Je ne souhaite pas me couper de mes collègues russes sur cette guerre en Ukraine. Je ne souhaite pas qu'ils se retrouvent pénalisés. » Donc nous verrons, œuvre par œuvre, de quoi il s'agira. En revanche, aujourd'hui, l'idée qu'une délégation russe puisse être la bienvenue à Cannes, une délégation officielle, Non, ça n'est pas possible.
Thierry Frémol, président du festival de Cannes avec Ilana Moriousef. Enfin, on apprend ce matin que la banque russe Sberbank quitte le marché européen. Les prix du pétrole continuent de monter, tout comme les cours du blé ou du maïs, à un niveau record en Europe.
Et pendant ce temps, en France, la scène politique s'inquiète d'une campagne présidentielle gelée par cette crise ukrainienne.
Couperet, vendredi à 18h pour les candidats. Christiane Taubira, loin d'avoir ses signatures, fera une déclaration à la presse aujourd'hui à midi. Des parrainages, en revanche, largement suffisants en nombre pour Éric Zemmour. Plus de 600 signatures, plus de 800 pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis l'heure qui tourne pour officialiser la candidature d'Emmanuel Macron. Et en pleine campagne, voici un chiffre comme un pavé dans la mare dévoilé sur France Inter ce matin par la Fondation des Femmes. Le coût financier pour la société des inégalités hommes-femmes, du monde du travail aux violences conjugales en passant par les comportements dangereux. Plus de 100 milliards d'euros par an. Chiffrage de l'étude réalisée avec les chercheuses de l'association Genre et Statistiques Claire Chaudière.
La marge d'incertitude existe, mais dans tous les cas, les chiffres donnent le tournis. Fourchette basse, 102 milliards. Fourchette haute, 118 milliards d'euros par an. Il y a bien sûr le prix des inégalités économiques, de salaire ou de niveau d'activité. 22 milliards d'euros de création de richesses dont se prive la société, pointe la chercheuse Lucille Pays-Tavin.
Si l'écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes était réduit de 100%, on économiserait cette somme qui est tout à fait colossale.
Frais médicaux, recours aux aides sociales, impact sur les enfants, le coût des violences conjugales dépasse les 3 milliards d'euros. Celui de la virilité au sens large est édifiant, 89 milliards. Estimation basée sur la surreprésentation des hommes dans les comportements asociaux, insécurité routière par exemple.
84% des responsables d'accidents mortels sur la route sont des hommes. C'est un surcoût extrêmement important. Les chiffres ont cet avantage de parler des inégalités d'un point de vue le plus objectif possible et finalement de permettre une prise de conscience.
Car si le coût humain des inégalités est bien inestimable, conclut la Fondation des Femmes, les chiffres du gâchis financier pour la société, eux, sont autant d'arguments irréfutables.
Et c'est aussi à lire sur franceinter.fr. Une renaissance pour la chapelle d'Arblay, plus grand centre de recyclage de papier et de carton en France. La métropole de Rouen a voté hier soir à l'unanimité le rachat des machines pour relancer le site avec Veolia et Fibre Excellence. Et puis au Kenya, début aujourd'hui de négociations mondiales historiques pour arriver à un traité pour lutter contre la pollution au plastique. Véritable épidémie qui empoisonne toute la biodiversité. Précision à 8h. Enfin, Versailles n'ira pas au Stade de France. Le club de foot des Yvelines termine l'aventure Coupe de France après avoir enchaîné 9 victoires. La défaite hier soir à Nice 2-0, mais une sortie la tête haute. Écoutez Melvin Vieira, milieu de terrain versaillais.
Il y a de la déception, mais après aussi il y a beaucoup de fierté parce qu'on a fait un parcours exceptionnel quand même. On est parti se qualifier à Toulouse, on est parti se qualifier à Bergerac. Aujourd'hui, on vient jouer ici, on perd 2-0, on est éliminé. Mais je pense qu'on les a regardés droit dans les yeux et qu'on a montré une très belle image de notre club, de notre équipe et du foot amateur. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on peut se dire qu'on a écrit une histoire de la Coupe de France et on a aussi écrit une très grosse histoire du club. On peut être fier de ce qu'on a fait.
Le Versailles et Melvin Vieira avec Jean-Pierre Blimaud à suivre ce soir l'autre demi-finale Nantes-Monaco à 21h15.
Merci Anaïs Fega pour ce journal. Le zoom dans 3 minutes, la vie bouleversée des Ukrainiens de France.